Chronique de littérature paysanne, mais Mahmoud Alaya. Adicias, bonsoir Mahmoud.
Adicias, bonsoir.
Alors, veille, on en parle des paysans et de la vie de la campagne, de la campestre. Et entre autres, on a un peu étudié l'œuvre de Louis Le Bourdet. Alors, quel est Louis Le Bourdet?
Bon, Louis Le Bourdet, c'est un paysan de la Sarthe. Il est né en 1923 à Prével, dans la Sarthe, c'est tout près du Mans. Ses parents vivaient sur un petit bordage de 8 hectares, répartis sur 13 champs. Hein, donc ce qui veut dire que c'est des petites parcelles, vraiment. C'est un petit paysan avec un cheval, 4 ou 5 vaches et puis 2 truies. Voilà, donc c'est ses parents, ça. C'est l'exploitation de ses parents qui l'a reprise, évidemment, après. Et à 25 ans, lui n'a d'autre ambition que de remplacer ses parents et de continuer le sillon tracé par les générations qui l'ont précédé, sans autre formation que le geste appris de son père, qui était rebelle à tout changement, comme beaucoup de paysans. Lui, il a tout appris de la vulgarisation agricole avec les CETA, les GFA, les GDA, etc. Et il était vraiment profondément attaché à son coin de terre. Il a été élu maire de Prével en 59. Il était bien entouré par des amis et pourtant, avec tout ça, eh bien, il a tout abandonné en 62 pour émigrer en Touraine. Ce fut pour lui un arrachement familial, mais compensé par la certitude que c'était le moyen d'assurer l'avenir de ses enfants. Donc, lui, Le Bourdet, est un petit paysan. Alors, il a émigré. Il va nous dire un petit mot sur cette évolution, disons, de son exploitation, parce que j'ai eu la chance de le rencontrer. Il est aussi membre de l'Association des écrivains paysans, dont je rappelle un peu l'adresse du site internet pour les auditrices et auditeurs qui veulent avoir plus d'informations. Hein, c'est www.écrivain au pluriel avec S, tiré paysan au pluriel avec S.com. Hein.
Alors, pardon.
Oui. Et bon, et voilà. Et donc,
alors, ses écrits.
Ses écrits, voilà.
Sous écrits, chez son ombre.
C'est un écrivain, c'est vraiment un écrivain qui a un style merveilleux. Il a écrit 2 ouvrages dont on va parler. Disons, ce sont 2 romans qui donnent son témoignage sur la vie des paysans. Mais d'une façon très précise, très romanesque. C'est la vie des paysans d'après-guerre, jusqu'aux années 80 pratiquement, c'est 30-40 ans. Et son premier roman a été publié en 95 aux éditions Cénoman. Il a pour titre « Les choses qui se donnent ». On va voir qu'est-ce que ça cache, ce titre. Et ce roman a reçu le prix Sully en 97. Donc c'est un roman qui a été très apprécié. Le deuxième roman, il continue, c'est la suite, c'est Les épis du vent. Il a été publié aussi en 2001 aux éditions Cénoman également. Hein, ces 2 ouvrages racontent un peu son parcours dans un style merveilleux que je ne peux pas vraiment... C'est un style romanesque avec une minutie, une qualité de réflexion, une grande émotion que seul, lui, Le Bourdet, sait nous communiquer en faisant appel à tous nos sens. Et en plus, pour lui, le fait d'écrire, d'être publié, de rencontrer les lecteurs, etc., c'est vraiment la cerise sur le gâteau, parce qu'il adore ça, et il pense aussi qu'il est bon que les gens de bonne volonté trouvent plus tard des récits, de témoins, pour savoir un peu d'où ils viennent. Et voilà, disons, le contenu un peu brièvement résumé, mais il faut le lire pour voir un peu toute cette description, cette émotion, la sentir, si vous voulez. On se sent vivre avec les paysans de cette époque. Alors,
on va, On a écouté l'enregistrement. Hein.
Voilà, je l'ai rencontré et on a enregistré quelques petits morceaux, disons, de son témoignage.
Aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer Louis Le Bourdet. Louis Le Bourdet est un paysan écrivain de la région de... Enfin, il a vécu, il va nous le dire hein, d'ailleurs, dans la Sarthe et puis un peu du côté de Tours et de l'Anjou. Et on va profiter pour qu'il nous parle un peu de son expérience. C'est un paysan qui a bien connu l'agriculture à partir de la Seconde Guerre mondiale, même un peu avant, et jusqu'à la fin des Trente Glorieuses. Et donc, il va nous parler de son expérience. C'est un petit paysan qui a écrit notamment deux livres très passionnants dont on va parler. Et je vais d'abord donner la parole à Louis Le Bourdet pour qu'il se présente. Et après, on viendra un peu aux écrits qu'il a réalisé sur le milieu paysan, le milieu rural, la vie des paysans, etc. Louis, est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu as vécu un peu maintenant, lui, tu es à la retraite, mais disons, on voudrait relater un peu la vie des paysans depuis un peu avant l'avant-guerre jusqu'aux années 60 par là, mais brièvement bien sûr. Et alors comment toi, tu es dans quel milieu tu as vécu et comment tu es venu, quel type d'exploitation tu as géré, etc.
Donc je suis né dans le département de la Sarthe, dans une petite exploitation de 8 hectares où avaient vécu avant moi mes parents, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère. Et puis à la suite de cette, dans la lignée, j'ai pris cette exploitation où nous sommes restés avec mon épouse et trois enfants jusqu'en 1952. Et faute de pouvoir s'agrandir, nous avons émigré en Indre-et-Loire sur une exploitation de 40 hectares.
Oui, et alors est-ce que d'abord vous parliez français ou vous parliez un patois? Quelle était la langue utilisée par les paysans à l'époque?
Alors jusqu'à 38 ans exactement, j'ai parlé un patois, c'est-à-dire un vieux parler du Maine, que je comprenais parfaitement et que j'écrivais même, et dans lequel... Le français d'aujourd'hui a du mal à se retrouver.
Mais tu peux nous dire quelques mots ou raconter une petite anecdote en patois?
Ah ben oui, mais moi, je ne suis pas un conteux, je n'ai pas été aux écoles pour ça. Parce que pour être conteux, faut être instruit, faut avoir été aux écoles. Plus tu y as été longtemps, plus tu es un bon conteux. Regarde bien les députés, les sénateurs, tous les gars du gouvernement. Ça, c'est des conteux, tiens. Et puis des bons. Faut être conteux, tiens, pour faire accrire au monde que si ça va toujours de plus mal en moins bien, c'est point de notre faute, mais que c'est de la faute à ceux-là qui étaient dans les affaires avant nous. Et pas te tirer, et pas te lauter, que je te cause, et que je te débordelle. Si bien que le temps que t'es en train de mêler ce qu'ils sont en train de te dire, il y a longtemps que t'as oublié par où ils l'ont commencé.
Bon, ben ça se comprend. Bon, c'est un peu toi, mais on voit le sens.
Mais moi, ce que je t'en dis, c'est rien. C'est juste pour causer, puisque je sais pas compter.
Bravo, merci. Donc, alors tu as émigré, d'après ce que tu nous dis, de la Sarthe vers le Maine.
La Touraine.
Alors, peux-nous parler un peu de l'agriculture de Touraine, l'exploitation que tu gérais, qu'est-ce que vous faisiez?
L'agriculture de Touraine était un peu différente de celle de la Sarthe, d'abord par la grandeur des exploitations, et puis ensuite par la présence de la vigne. Dès qu'on franchit la Loire, on a une autre mentalité. On passe des buveurs de cidre aux buveurs de vin. Et aux cultivateurs, de cultivateurs, on passe à une mentalité un peu vigneron.
Oui.
Donc, c'est des gens qui sont beaucoup plus gais, beaucoup plus allants, moins renfermés, très faciles d'accès.
Et tu as été bien accueilli là dans la nouvelle région où tu es venu. Tu as des difficultés. Comment ça s'est
passé? Les Tourangeaux sont des gens accueillants qui, au cours des siècles, ont accueilli différentes migrations et ont tout assimilé. Donc, ils sont habitués à recevoir. Il y a eu beaucoup de Polonais. Et au moment où on est arrivé, nous, en 1962, on avait dans la même commune 11 agriculteurs sur 40 qui étaient d'origine de d'autres départements nord de la Loire.
Très bien, très bien. Et alors, comment tu es venu à l'écriture? Parce que tu as écrit deux livres, un sur les choses qui se donnent, et puis un autre sur les épis du vent. Alors, d'abord, explique-nous comment tu es venu à l'écriture et qu'est-ce que tu as voulu mettre un peu en bref. On pourra.
Je suis venu par un petit lexique de vieux parler tel que je viens de donner un petit aperçu, et par la suite je me suis aperçu qu'il vaudrait mieux écrire et en mettant un mot patois de temps en temps. Et donc j'ai écrit d'abord mon enfance, et puis en ne perdant pas de vue que ma personne, moi enfant, mes parents, les gens du village n'avaient d'importance que si on les prend dans le contexte de l'époque. Donc chaque personnage, mon oncle Sieur Delon, charpentier, qui jouait du violon dans les bals de village, tous ces gens-là n'avaient d'importance que si on raconte en même temps la vie du village lui-même.
Et alors les choses qui se donnent, c'est quoi ce titre? Qu'est-ce que vous avez voulu mettre derrière ce titre?
C'est la façon de vivre, la façon d'envisager l'existence à travers une foule de petits bonheurs qui nous viennent comme ça, simplement regardant autour de soi, ou un sourire, une rencontre, et quand on sait l'observer et en jouir. Et je me souviens en particulier d'une poésie apprise à l'école qui s'y parlait de l'automne et qui se terminait par les raisins ont perdu, pardon,
oui.
Les raisins qu'un vieux mendiant, un vieux mendiant en emporte une grappe, et chaque grain qu'il mange est un petit bonheur.
Voilà. Donc c'est les bonheurs qui ne peuvent pas s'acheter, quoi, quelque chose
voilà,
comme ça.
Voilà, qu'il faut cueillir au passage.
Qu'il faut cueillir au passage, c'est avec, ça les choses qui se donnent.
Et avec tous ces petits bonheurs-là qui sont faits d'une rencontre, d'un sourire, d'une parole aimable et d'un service rendu réciproquement, qu'on se fait le grand bonheur d'être vivant.
Voilà, mais il faut saisir ces petits bonheurs au fil du temps. Bon, merci beaucoup. Donc ça, c'est votre premier livre.
Le meilleur des choses ne coûte rien. Tout ce qui vraiment nous fait du bien. Un rire d'enfant, un rêve insouciant. Sans rien demander, il nous soutient. Le meilleur des choses ne coûte rien. Le meilleur des choses ne coûte rien. Tout ce qui vraiment nous fait du bien. Le profond sommeil de celui qui veille le jour à son prochain. Le meilleur des choses ne coûte rien. des choses ne coûte rien. Tout ce qui vraiment nous fait du bien, les bras d'une mère, du bout de la mer, ce rayon qui nous arrive enfin. Le meilleur des choses ne coûte rien. Le meilleur des choses ne coûte rien. Tout ce qui vraiment nous fait du bien, sans les intérêts à payer après, avoir partagé l'eau et le pain. Le meilleur des choses ne coûte rien. Le meilleur des choses ne coûte rien. Ce qui vraiment nous fait du bien, d'un amour ancien, un air qui revient et chante avec nous dans le pétrin. Le meilleur des choses ne coûte rien. Le meilleur des choses ne coûte rien. Tout ce qui vraiment nous fait du bien, la main dans la main, par ce vieux chemin, nous irons à deux jusqu'à demain. Le meilleur des choses ne coûte rien. Nous irons à deux jusqu'à demain. Le meilleur des choses ne coûte rien.
Bon, lui, là, on a parlé de ton premier livre là sur les choses qui se donnent, où tu racontais un peu ton enfance et puis les, disons, comment tu as perçu un peu les petits bonheurs là dont tu nous parlais de la vie. Maintenant, on va plutôt parler du deuxième livre qui est intitulé donc avec le titre Les épis du vent. Et ce deuxième livre est écrit dans un style très, très pittoresque et assez précis sur la vie des paysans, et pas seulement d'ailleurs, et des artisans qui vivent avec eux dans le village rural des années donc, d'après-guerre. Et... est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur, justement, d'abord le titre, hein, Les épis du vent, et puis ensuite les personnages qui sont là dans ce livre, qui montrent un peu, à la fois, on reprendra un petit peu quelques-uns de ces personnages, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est Les épis du vent ?
Alors, Les épis du vent, c'est emprunté au nom d'une plante parasite du blé, qui est l'Agrostis jouet du vent, et qui a la particularité de monter à graines au-dessus des épis de blé et de concurrencer gravement la récolte. Si bien qu'on croit avoir une récolte importante, on a amassé des gerbes, avant les désherbants bien sûr, et on a amassé des gerbes et qui avaient peu d'épis. Donc c'est une allusion aussi à toutes les choses qu'on amasse au cours de sa vie et dont beaucoup s'avèrent inutiles par la suite. Donc voilà, j'ai appelé ça « Les épis du vent ».
Voilà, donc il y a une philosophie derrière ce titre, « Les épis du vent », pour montrer bien qu'il y a des choses importantes et des choses moins importantes, et que tu as traduit à travers une image agricole, en quelque sorte.
Voilà.
Bon, alors, dans ce livre, tu nous parles un peu des personnages qui vivaient dans les fermes, dans les paysans, Et tu parles notamment des femmes dans la ferme, et notamment les bonnes de ferme, ou dans d'autres régions on l'appelle les filles de ferme. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur le statut, la position de ces femmes, les travaux qu'elles faisaient, et puis ce qu'elles gagnaient, comment elles étaient recrutées, rémunérées, quels travaux elles faisaient, etc.
Alors le plus souvent, c'était des filles qui avaient quitté l'école très tôt et sans aucune possibilité d'aller plus loin dans leurs études parce que les familles étaient pauvres. Donc on les engageait pour faire les travaux de la ferme les plus rebutants, on peut dire, traire les vaches. Et c'était le travail exclusivement réservé aux femmes dans notre région. Pour les hommes, c'était déchoir que de traire. Et donc, elles étaient logées dans des chambrettes pas toujours chauffées l'hiver. Et elles étaient considérées un petit peu comme des gens sans importance. Quelqu'un qui arrivait qui venait pour voir les patrons et qui ne les avait pas trouvés, disait en rentrant chez lui, par exemple, je n'ai vu personne, il n'y avait que la bonne.
Bon, c'est très significatif. Bon, et alors, c'est bon, tu disais tout à l'heure qu'elles avaient arrêté les études parce que, elles étaient pauvres. Mais il n'y avait pas aussi le fait qu'on ne voulait pas que les filles continuent poursuivre leurs études, par exemple, au-delà d'un certain âge ou quelque chose.
Il est vrai que dans notre région, surtout, il n'était pas question pour les filles, sauf dans certaines fermes un peu plus importantes ou avec des gens d'un certain niveau déjà. On envoyait les filles, par exemple, ce qu'on appelait en pension, où elles allaient jusqu'au brevet élémentaire, par exemple. Il n'était pas question pour les ouvriers, pour les petits paysans, qui c'était pas bien vu d'abord, et donc ces femmes-là, jusqu'à leur mariage, étaient pratiquement condamnées, si on peut dire, à ce travail de domestique.
D'accord. Bon, et alors pour la vie de village, le village ruraux, si vous voulez, les paysans, ils avaient des relations, enfin des artisans qui leur rendaient service pour réparer leurs outils ou pour fabriquer des matériels dont ils ont besoin, etc., et qui faisaient un peu la vie du village. Est-ce que vous pouvez présenter quelques-uns de ces artisans qui ont peut-être disparu, là, pour la plupart, maintenant, enfin, on les voit plus?
Oui, alors déjà dans les choses qui se donnent, j'ai parlé de l'épicière, mais dans les années 60, on trouvait encore en Touraine, par exemple, dans le village où j'habitais, on trouvait un bourrelier, un maréchal ferrant, il y avait tous les petits métiers autour desquels tourner la vie du village et où les gens se rassemblaient, par exemple. Par exemple, chez le forgeron.
Oui, j'ai lu justement sur le forgeron de ton village, là. Tu peux nous parler un peu plus de ses activités, ses rencontres, ce qu'on rencontrait autour de la forge?
Alors, en fait, c'était un homme qui était très affable et qui tolérait qu'autour de lui il y ait plein de gens à discuter en attendant rien d'ailleurs et simplement parce qu'il y avait du monde, on était venu voir les gens, les retraités et par exemple qui rencontraient, il m'arrivait moi de faire réparer un outil par exemple et je trouvais là des gens qui m'interrogeaient sur le blé, sur comment ça se passe dans les champs avec toute cette eau qui est tombée et eux, c'était encore pour eux faire comme si ils étaient encore dans les champs. Et je me souviens d'une fois, même une brave dame qui est arrivée là, en charentaise, et puis qui marchait parmi les socs éparpillés dans les outils éparpillés dans la forge, et qui demandait au maréchal, « Alors Raymond, as-tu eu le temps de boucher mon trou ?» Et alors bon, ça paraissait un peu étonnant, mais quand on a vu le maréchal fouiller dans un fatras de boulons, d'objets divers qui traînaient dans son atelier, il a retiré tout simplement une casserole en émail qui était percée. Et donc, et puis qu'il a mis à chauffer son fer à souder, et puis qu'il a réparé en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, le fameux trou de la casserole. Et la dame est repartie avec ça, simplement avec un merci.
Oui. Bon, en fait, c'est un lieu de rencontre. Chez le forgeron, oui. Mais chez d'autres artisans également. Il y avait donc dans le bistrot peut-être. Mais les paysans, ils allaient souvent au bistrot.
Pas trop. Sauf le dimanche après la messe. Bon, ça c'est traditionnel là dans les pays où les hommes allaient encore à la messe dans les années 50-60. C'était toujours le rassemblement pour boire un café après la messe.
Oui, mais il y avait quand même une vie de village.
Il y avait une vie de village.
Animée par ces artisans qui étaient un peu les partenaires des paysans. Bon.
Oui.
Ok. Merci donc de ce témoignage vivant sur la vie des paysans à une époque toute récente finalement ça a existé jusqu'à quelle époque à peu près
jusque vers 1980 on peut dire jusqu'en 1980 le nombre d'artisans dans chaque village n'a cessé de diminuer après la Deuxième Guerre mondiale. Mais jusqu'en 1980, on trouvait encore un café de village ouvert tout le temps, même le dimanche, et quelques artisans qui tournaient autour des chevaux en particulier.
Merci.
Ako eron la kronik de literatur paisan ame Mahmoud Alaya.